on cesse de considérer les êtres humains comme des sortes de machines, mais de remettre les machines à la disposition des êtres humains, elles ont des capacités merveilleuses. Et
une belle rencontre avec M. Alain Supiot. Je suis ravi de vous accueillir. On est ici dans un lieu que vous connaissez bien, je crois.
Ouais. Oui, le Muséum d'histoire naturelle, c'est un des lieux de culture de la ville de Nantes.
Oui, on va faire un bond, je dirais, dans le passé, dans le présent et aussi dans l'avenir. Je viens tout de suite au fait parce que lundi soir, la manufacture, belle conférence qui sera organisée. On vous attend à la manufacture à partir de 20h. Donc, belle conférence sur le travail en quête de sens. Je voulais qu'on revienne sur quelques, comme on dit, des faits d'armes. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, parce qu'ici à Nantes, vous êtes quand même connu, c'est un nom qui sonne. Vous avez œuvré finalement en tant qu'universitaire, j'allais dire savant, on peut l'évoquer comme ça, sur le monde du travail, qui n'est pas si simple que ça finalement, aujourd'hui à comprendre.
Oui, je suis juriste de formation et j'ai effectivement, après une thèse à Bordeaux, enseigné à l'Université de Nantes pendant de nombreuses années, avant d'être élu au Collège de France en 2012, où j'ai donc occupé une chaire sur les questions de droit social et de mondialisation. Et mon travail s'est focalisé principalement sur les questions de ce qu'on peut appeler le droit social au sens large, droit du travail, sécurité sociale. Mais au croisement du droit avec la philosophie et l'anthropologie. Ben, vous savez, le travail, il est aussi vieux que l'humanité, puisque dans son sens premier, c'est d'abord c'est une contrainte qui pèse sur nous. Hein. Freud disait que nous sommes dans deux dépendances, à l'autre sexe d'une part et au travail d'autrui. Donc la division du travail est très ancienne. Et d'autre part, c'est cette faculté propre à l'être humain d'avoir des images dans la tête qu'il essaie d'inscrire dans le réel. Et dans ce travail d'inscription, il se heurte au réel. Il doit apprendre à le connaître, que ce soit les nœuds du bois pour un menuisier ou la résistance de ses collaborateurs qui ne comprennent rien pour un manager. Et donc, c'est ce va-et-vient entre l'imaginaire et le réel et qui a une fonction d'institution, de ce qu'on peut appeler d'institution de la raison. Je dois beaucoup là-dessus à la lecture d'une grande philosophe, Simone Weil, à mon sens. Je parle de la philosophe qui est morte à 30 ans, 43, à Londres, qui est l'un des plus grands esprits du XXe siècle, et qui avait, elle, plutôt que de faire de la philosophie du travail en chambre, s'était embauchée à Alstom pour vivre ce dont... elle allait parler.
Je voulais m'exercer là aussi à quelques facéties dans cette chronologie. Je vous évoquais cet anthropocène, c'est l'homme qui prend la nature. Je voulais aussi évoquer une deuxième date, 1789, quand l'homme a pris l'esprit. Liberté, égalité, fraternité. Le travail, finalement, liberté, égalité, fraternité, c'est un rapport de l'homme par l'homme. Pas si évident que ça aussi, sur le plan philosophique.
Oui, la Révolution française, comme d'ailleurs la Révolution américaine, parce que le cas anglais est différent, les révolutionnaires n'avaient pas conscience qu'ils posaient un premier pas dans le sens de la société industrielle, en imposant les bases juridiques. C'est-à-dire, contrairement aux inepties habituelles où on dit le droit est toujours en retard, c'est pas vrai, les bases juridiques du capitalisme industriel ont été posées avant l'essor industriel. Par la propriété privée, par le contractualisme, etc. Mais tel n'était pas le dessein des révolutionnaires. Eux, ils imaginaient qu'en cassant les corporations de métiers, on allait avoir un petit peuple de travailleurs indépendants et que c'est dans l'expérience de ce travail indépendant qu'était une école de la citoyenneté. On apprend à se gouverner par soi-même. C'est un thème qui a été très important aussi dans l'histoire des États-Unis, Jefferson, et ce sont des gens qui se sont opposés dans un premier temps à l'industrialisation, disant on va importer d'Angleterre plutôt, parce que ça va ruiner les bases économiques de la démocratie américaine. Donc ce moment est ambivalent, puisque dans le même temps, de fait, il a posé les bases institutionnelles de l'essor de l'industrie et donc de l'asservissement de masses humaines entières qui ont été arrachées aux campagnes d'abord en Angleterre, puis ensuite dans l'Europe continentale, selon un processus qui a été très bien analysé tout au long du XIXe siècle. Si on cesse de considérer les êtres humains comme des sortes de machines, mais de remettre les machines à la disposition des êtres humains, elles ont des capacités merveilleuses, et notamment elles pourraient nous débarrasser de toutes les tâches qui relèvent du calculable pour concentrer le travail sur ce qui est soit la sensibilité, soit la créativité, qui sont des facultés proprement humaines que n'ont pas encore, en dépit de ce qu'on raconte sur le chat GPT, l'intelligence artificielle. Puis une dernière remarque peut-être sur ce sujet, qui est un peu en marge de la question du travail, c'est qu'on voit revenir un moment très intéressant dans l'histoire des techniques, où on a encore dans l'idée que la technique est à la remorque de la science, comme le droit serait à la remorque de... Or, pendant longtemps, la technique a au contraire été... une zone qui a inspiré la science. La notion d'ingénieur vient du fait qu'on observe l'artisan, on essaie de comprendre comment il travaille. Donc les savoir-faire techniques sont une source d'interrogation pour la science. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les données massives, j'ai eu la chance de travailler dans une institution où j'étais avec les meilleurs spécialistes de ces sujets. C'est une source d'interrogation. On ne sait pas comment fonctionnent, si vous voulez, vous évoquiez là, les premières tentatives d'intelligence artificielle des années 45. Là, on essayait d'avoir un schéma qu'on appliquerait sur le mode science puis technique. Ça n'a pas fonctionné. Ce qui fonctionne maintenant par les bases de données massives, on ne sait pas très bien comment, par exemple, les traducteurs, on a des traducteurs maintenant remarquables de langues, alors qu'on avait échoué à les faire avant. Donc la technique redevient un sujet d'intérêt pour la science. Donc ça, ça mérite d'être noté.
Cher Alain, moi je suis ravi. C'était trois faits entre cette nature, cet esprit et l'âme. Belle conférence. Nous serons à la Manufacture des Tabacs, que toutes les Nantaises et Nantais connaissent bien, lundi 19 juin à 20h. Belle conférence. Je crois qu'il faut venir nombreuses et nombreux. Un sujet vaste, j'allais dire passéiste, présent et de devenir, parce que nos générations sont là. Et face finalement à tous les enjeux que nous avons à lutter, bah, il faut mettre un peu de conscience, en tout cas, dans notre devenir. Merci, cher Alain, et puis on se dit à lundi,
à lundi, merci
19h,
beaucoup.
À merci. La Manufacture des Tabacs.
Merci de votre écoute.